Bonsoir les auditeurs de Radio Galère, bonsoir tout le monde. Voilà, c'est la dernière émission de l'année, la dernière émission de Une Heure en Palestine, donc Palestine martyrisée, à Gaza martyrisée, comme vous le savez. Et pour tout vous dire, nous préenregistrons cette émission, parce que comme tout le monde, il va y avoir besoin d'un peu de vacances la semaine prochaine, même si nos esprits, nos cœurs sont en Palestine. Eh bien, nous avons choisi d'enregistrer ce soir l'émission, vendredi soir. On va commencer par quelques informations et d'ici quelques minutes, vers début d'émission, dans à peu près 5 à 8 minutes, on rencontrera une artiste, Louga Lambada, qui nous parlera des artistes contre l'apartheid. Artist Against Apartheid. Puis nous enchaînerons après une pause musicale avec Sabri, coordonnateur de l'ouvrage La Palestine en 50 portraits, qui a été présenté la semaine dernière à Marseille et avec lequel nous avons prévu de faire un petit entretien pour que plus largement vous puissiez découvrir ce magnifique ouvrage. Avec une très belle iconographie et des personnages palestiniens dont on n'a jamais entendu parler, ou presque, pour la plupart d'entre eux, d'autres étant bien évidemment beaucoup plus célèbres. Et nous reviendrons après une nouvelle pause musicale, nous reviendrons sur des dernières informations en provenance de Palestine, mais aussi des Nations Unies. Alors tout d'abord, ce communiqué de l'UNRWA, qui nous dit, communiqué daté de ce matin, environ 2 millions de Palestiniens ont été déplacés. L'UNRWA est la plus importante organisation humanitaire avec 13 000 personnels qui travaillent nuit et jour pour apporter de l'aide à plus de 700 000 déplacés qui sont en besoin complet d'assistance humanitaire et qui recherchent asile dans les écoles et bâtiments de l'institution. Rappelons-nous tout de même que les écoles de l'UNRWA sont bombardées et certains bâtiments de l'administration sont eux aussi bombardés. Tous les jours, 70 camions de l'UNRWA entrent dans Rafah pour apporter eau, nourriture et médicaments. Nos travailleurs de santé, nous dit la chargée de communication de l'UNRWA, nos travailleurs de la santé se déplacent d'abri en abri pour traiter les patients légers. Pour continuer, nous avons besoin de nourriture, d'eau, de médicaments, de fuel, de couverture, etc., etc. Alors nous qui n'avons pas les moyens d'intervenir directement à Gaza, comme le fait l'UNRWA, eh bien nous avons, et nous lançons cet appel pressant, comme le fait l'UNRWA pour de l'aide humanitaire, nous lançons cet appel pressant à tous ceux qui nous écoutent pour qu'ils agissent pour faire pression sur le gouvernement français, pour exiger que des sanctions soient prises contre les autorités israéliennes qui refusent d'appliquer le droit international humanitaire, qui refusent d'appliquer les conventions de Genève et qui s'entêtent à vouloir massacrer. Une autre information plus récente, encore, avant-hier soir, Israël plus isolé que jamais à l'ONU. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution intitulée « Le droit du peuple palestinien à l'autodétermination » et cela à une majorité écrasante car la résolution a reçu l'appui de 172 pays, 4 s'y opposant, c'est-à-dire les États-Unis, Israël, la Micronésie et Nauru. Et 10 pays se sont abstenus de voter, parmi eux 2 pays africains, le Cameroun et le Togo, tous deux dictatures soutenues par les conseillers militaires israéliens. Cette Cette résolution réaffirme le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, y compris le droit d'avoir son État indépendant, la Palestine, et exhorte tous les pays, les institutions et organisations spécialisées du système des Nations Unies à continuer à soutenir et à aider le peuple palestinien à réaliser son droit à l'autodétermination le plus tôt possible. La résolution souligne également la nécessité urgente de mettre fin sans délai à l'occupation israélienne qui a commencé en 1967 pour la Cisjordanie et la bande de Gaza et pour Jérusalem-Est et de parvenir à un règlement de paix juste, durable et global entre la partie palestinienne et la partie israélienne sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies. L'initiative de paix arabe, le plan de la feuille de route pour trouver une solution permanente au conflit israélo-palestinien sur la base de la solution à deux États. Il souligne également la nécessité de respecter et de préserver l'unité, la continuité et l'intégrité de l'ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. L'Assemblée générale des Nations Unies a également adopté un projet de résolution affirmant les droits inaliénables du peuple palestinien à ses ressources naturelles et la souveraineté permanente du peuple palestinien dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est. 158 pays ont voté en faveur de cette résolution, tandis que 6 pays s'y sont opposés, vous vous en doutez, les États-Unis, Israël, le Canada, Nauru, la Micronésie et Palaos. 3 minuscules États et le Canada qui, comme vous le savez, fait aussi partie de ces pays qui ont exterminé les populations autochtones avant d'y installer les colons venus d'Europe. Et 13 pays se sont abstenus de voter. Alors la France a voté les deux résolutions et c'est pourquoi nous devons accélérer les pressions sur nos autorités de manière à ce qu'elles passent du discours, du blabla et du vote aux actes, c'est-à-dire qu'elles se dépêchent de reconnaître un État palestinien comme le Parlement l'a voté il y a déjà plusieurs années. À la suite du vote, donc, des Nations Unies, le ministre Riyad Mansour, représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, a remercié les pays qui ont voté en faveur de la résolution, saluant le soutien écrasant pour celle-ci qui indique que la communauté internationale soutient fermement les droits du peuple palestinien sous tous ses aspects, en particulier au milieu de l'agression barbare israélienne contre le peuple palestinien, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, soulignant la nécessité d'obliger Israël à mettre en œuvre ses décisions. Voilà, c'était pour les deux premières informations de cette émission. Pendant ce temps, de l'autre côté de la vitre, la communication est en train de s'établir avec notre première invitée. Tout de suite, si elle est en ligne. Oui. Bonjour, Luga.
Oui, bonjour, Régine.
Bonjour. Voilà, on sait que tu es pressée, tu es en départ pour les fêtes.
Et oui, pour profiter de la famille, en cette fin d'année un peu chargée.
Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler, d'abord te présenter, et puis nous parler de AAA, Artists Against Apartheid, les artistes contre l'apartheid?
Oui, bien sûr. Écoute, parce que on se connaît.
Oui, on peut se tutoyer. On se tutoie d'habitude.
Moi, je suis musicienne et DJ, et j'ai rejoint le mouvement, j'habite à Marseille, je suis marseillaise, et j'ai rejoint le mouvement avec d'autres amis musiciens, notamment... en octobre, et nous avons déjà organisé deux événements sous la bannière d'Artists Against Apartheid, qui est un mouvement né, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il est né à Paris, et donc qui a été lancé dans l'urgence, bien sûr, de faire porter porter des voix palestiniennes, évidemment, face à la censure, l'appareil médiatique censuré, on va dire, français et européen. Et donc nous organisons des événements, chacun met la main à la pâte, c'est un mouvement horizontal, et nous avions en tant qu'artistes en fait besoin de nous retrouver sous une même bannière pour œuvrer et mettre chacun ses capacités à l'œuvre.
Et je pense que vous avez des liens avec des artistes palestiniens ou peut-être même avec des artistes israéliens contre l'apartheid.
Oui, bien sûr. Moi, non, personnellement, pas encore, en tout cas. Mais bien sûr, oui, dans le réseau, il y en a, oui, tout à fait. Donc, oui, c'est l'idée, c'est de faire travailler, enfin de faire porter certaines voix, enfin les voix palestiniennes évidemment dans un premier temps et israéliennes.
Ok, sur Marseille, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je ne sais pas si toi, je pense que si tu découvres un peu ce qui se passe en Palestine, peut-être, oui. Ou tu étais sensibilisée avant, mais qu'est-ce qui se passe dans le milieu qu'on va qualifier d'underground? Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est tous ces jeunes qui, que nous, on découvre aussi, qui pour la première fois rejoignent le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien.
Et il était temps, oui. Eh bien, ben, écoute, voilà, moi, c'est vrai que la cause palestinienne, comme on en avait déjà parlé, c'est par la musique, en fait, vraiment, que j'ai pu ouvrir les yeux sur certaines conditions de production, notamment de musique ou des textes, tout simplement. Je pense énormément au collectif BLKNM qui sont de Ramallah, mm-hmm. et donc de rap, principalement, de trap, plus précisément. Et concernant mes camarades du milieu underground, alternatif, je pense que c'est la convergence des luttes qui nous amène de toute façon à être dans le combat pour l'égalité et pour la décolonisation palestinienne. De toute façon, ce sont en général des personnes qui sont sensibles, très sensibles et engagées, voire engagées, même très engagées dans les luttes décoloniales. Donc, de toute façon, le chemin est tout tracé, mais pas que ce soit dans les luttes des violences faites aux femmes, enfin, oui. de lutte des classes. Et effectivement, la cause palestinienne fait converger absolument toutes ces luttes. Donc, c'est tout à fait normal de se retrouver de toute façon, là, l'étendue de la catastrophe est telle qu'on ne peut pas ne pas être sensible. Enfin, je veux dire, je crois qu'il n'y a pas un seul musicien autour de moi ou une musicienne ou artiste qui n'a pas eu envie naturellement de créer ou de porter un message à sa façon. Bien sûr, on est tous et toutes capables de faire des choses, mais dans nos limites ou dans notre rythme, et je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir faire entendre ces voix-là lorsque souvent on se sent un peu écrasé, notamment peut-être face à des cercles familiaux fermés ou politiques, évidemment.
Bien sûr.
Ouais.
Eh bien, écoute, moi je te remercie beaucoup. Moi je tenais aussi à dire que pour la première fois depuis des années et des années où nous sommes sur ce terrain de la justice, de la dignité pour le peuple palestinien, nous découvrons pour la première fois toute cette jeunesse qui, de manière différente, oui, ça vient s'inscrire dans une recherche de justice, de dignité à sa manière, sans reprendre nos vieilles manières traditionnelles de lutter. Et pour nous, c'est extrêmement c'est puissant. Ça nous aide beaucoup. Je pense que nous faisons passer les informations à nos camarades en Palestine. Et eux suivent aussi l'information ici. Et tout ce que l'on met sur les réseaux sociaux leur arrive. Et en tout cas, je peux dire, il y a vraiment aussi des remerciements qui arrivent de Palestine envers tout ce que vous avez pu faire.
Alors, c'est magnifique de pouvoir tu vois ce que tu viens de dire, juste ça, de pouvoir se dire qu'on peut contribuer à l'idée de faire entendre des voix et justement de peut-être se faire sentir moins seul ce peuple qui souffre déjà depuis presque 8 décennies, c'est de par nos pratiques artistiques. De toute façon, c'est pas innocent généralement. Lorsqu'on devient artiste, enfin, en tout cas dans les milieux alternatifs, hein.
Oui.
Lorsqu'on devient artiste, c'est aussi pour faire entendre un monde qui nous est complètement bouché, en fait, pour être en lien avec d'autres personnes qui nous ressemblent et quel que soit les pays, quel que soit les origines, enfin, il n'y a plus de barrière, en fait. Effectivement, lorsque des massacres se propagent à une telle ampleur, avec en plus aussi peu de justice et d'équité derrière, la seule chose qu'on puisse faire, c'est œuvrer tous ensemble pour, en tout cas, essayer de contrer la censure médiatique, les médias mainstream qui nous bousillent, qui bousillent absolument tout le monde et, oui. Et qui nous rendent complètement stériles à la peine, à la souffrance de certains peuples. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a d'autres peuples qui souffrent également et je sais que dans ces milieux-là, c'est toujours assez... De toute façon, les milieux alternatifs sont très souvent de pair avec les milieux décoloniaux. Donc, c'est une grande marche sans limite.
Mais écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir rejoints pour cette dernière Merci. Émission d'une heure en Palestine.
Merci à toi.
Bonne fin d'année.
Merci à toi.
Et oui. puis, on se retrouve l'année prochaine pour continuer ensemble, chacun à sa manière, la lutte oui. pour la justice et la dignité et la décolonisation.
Et Palestine vivra.
Merci, à bientôt. Bon voyage.
Merci Régine, merci Radio Galère.
Maintenant, on fait tout de suite une pause musicale avec une histoire assez particulière. C'est cette chanson que l'on entend dans toutes les manifestations de France, de Navarre, du monde entier. C'est une chanson écrite à l'origine par un réfugié palestinien installé en Suède qui nous revient. Elle s'appelle « Longue vie à la Palestine »,« Long life Palestine ». Elle est chantée en suédois. Écoutez-la, vous l'avez déjà entendue.
Liebe Palästina, o großer Zionismen, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe Palästina, o großer Zionismen, liebe Palästina, o großer Zionismen.
Und wir erhulat Juden,
und wir erhulat Juden,
und wir erfordert
Und
wie hat schon das Wetter? Wie hat noch ein da?
Und wie hat noch ein Zitronen da?
Oh, pressat du lieber da?
Oh, pressat du lieber da?
Oh, hela werden, schenner till vår jord.
Oh, hela werden, schenner till vår jord. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina. Liebe Palästina, o großer Zionisten.
Und wie hat das das Zehnerbomb?
Und wie hat das das Zehnerbomb?
Soldaten und Polizisten.
Soldaten und Polizisten.
Und wie hat schüttet die Raketen?
Und wie hat schüttet die Raketen?
Mut vor der Fienden.
Mut vor der Fienden.
Voilà, sur Radio Galère 88.4, une heure en Palestine, et vous venez d'écouter Long Life Palestine en suédois. Et tout de suite, nous retrouvons Sabri Giroux, le coordonnateur de ce magnifique ouvrage « La Palestine en 50 portraits ». Sabri, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, très contente de te retrouver, puisque tu étais la semaine dernière à Marseille. Nous avons eu le plaisir de prendre un café au réformé, au milieu des fleurs, samedi dernier. Tu as pu présenter ton ouvrage. Alors, est-ce que tu peux d'abord, peut-être pour les auditeurs qui te connaissent moins bien que les militants et les gens qui ont eu la chance de voyager en Palestine, est-ce que tu peux rapidement te présenter et puis nous parler de l'idée de ce livre, pourquoi la Palestine en 50 portraits ?
Voilà, donc Sabri, voilà, j'organise des voyages en Palestine, le voyage dans le temps, dans le présent et dans le passé fait partie de mes activités professionnelles et passionnelles. D'une formation d'archéologue, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire ancienne, mais également l'histoire présente. Et de là est née l'idée d'un ouvrage plutôt scientifique qui devait rassembler un certain nombre de données approfondies à partager.
Alors
voilà, c'est véritablement l'objectif de cet ouvrage de la Palestine en portrait. Avec l'idée clé de redonner corps en fait à l'histoire à travers des personnages et à travers les Palestiniens dans le temps.
Alors je vois qu'il y a quatre chapitres, c'est ça, et puis on va peut-être les regarder un par un. Le premier chapitre, il est appelé, alors d'abord qui sont les intervenants, parce que il y a 50 portraits et 50, au moins 50 personnes qui ont rédigé des contributions pour cet ouvrage.
Voilà, effectivement, il y a de nombreux contributeurs. Il y a, si ma mémoire est bonne, 45 contributeurs de 12 nationalités différentes. Certains sont historiens, d'autres anthropologues, d'autres politistes, des journalistes, des auteurs, écrivains. Donc l'idée est aussi de rappeler que l'histoire elle s'est créée à plusieurs mains et c'est comme ça que voilà ont été réunis ces différents intervenants. Alors diviser une longue histoire, une histoire qui part de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Comment subdiviser cette histoire, comment la périodiser, c'est toujours assez complexe. Hein, l'idée finalement, ça a été de s'arrêter à quatre périodes. Je pense qu'elles sont assez éclairantes en fait, où on a une période d'histoire ancienne qui est centrée sur cette région. De la Méditerranée orientale, du Moyen-Orient, de la préhistoire avec les grandes périodes de découvertes et de grandes civilisations.
Cette première personnalité présentée, Noura, le long voyage d'une chamane natoufienne au pays des morts. Alors, on remonte à quelle époque et quels étaient... Je ne sais pas si à l'époque, il y avait des dieux et est-ce que ces dieux promettaient une terre à ceux qui les adoraient ou bien c'était la nature
Alors, c'était sans doute la nature, mais avec... s'il y avait des dieux pas encore incarnés dans des figures anthropomorphiques, en tout cas, il y avait des passeurs. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un passeur, d'une femme, d'une chamane, hein, comme l'a désigné l'auteur Pierre-Guy Stéphanopoulos, qui est archéologue. Hein, c'est le personnage le plus ancien qui a été choisi. C'est une chamane qui communiquait aussi avec les esprits. Les esprits pour soigner les hommes. Et de cette chamane, il nous reste quelques traces. En Galilée, en fait, c'est une découverte assez récente de 2008, d'une sépulture, mais d'une sépulture d'une personnage peu ordinaire, donc accompagnée d'un tas d'objets qui rappellent donc des... des outils, ce qui devait être des outils pour invoquer des forces de la nature, des forces végétales, des forces animales. Alors cette chamane, donc elle date de la période natoufienne, donc et elle se situe, cette découverte se situe donc au dixième millénaire avant notre ère. Période d'un grand début, puisqu'en fait, en Palestine, on voit apparaître une découverte qui aura son importance, c'est l'invention, on va dire, en quelque sorte, de la sédentarité. Période où les hommes commencent à se fixer, tout en étant des chasseurs-cueilleurs, ils commencent à se fixer dans une géographie plus stable.
Oui, c'est l'époque aussi du début, c'est le démarrage peut-être de l'agriculture, en tout cas d'une agriculture sommaire.
Donc exactement, en se fixant, on commence à accueillir les plantes et puis probablement à se familiariser à ces plantes, à les sédentariser, à les domestiquer. Donc c'est la période qui va aussi préfigurer à la fois la domestication des animaux, la domestication des plantes.
Voilà pour la première période. Donc moi j'aime bien la deuxième période aussi où on découvre alors des gens dont on entend parler beaucoup plus souvent, comme Hérode, Jésus de Nazareth, Marie-Madeleine, bien sûr, Flavius Joseph, et je ne sais pas lequel de tous ces personnages, Zacharie le scolastique, Julien d'Ascalone, lequel choisirais-tu pour nous en dire un peu plus sur lui ou sur elle?
Ah, il y a beaucoup de personnages véritablement intéressants. Le personnage d'Arsinoé est un personnage intéressant dans ce chapitre qui s'intitule La Palestine et la mer, hein, donc c'est le début de la période hellénistique. C'est rappelé également que la Palestine est ouverte de tout temps sur la Méditerranée et donc la Méditerranée orientale. L'ensemble de ces personnages nous rappelle aussi la diversité religieuse et qu'on retrouve aussi dans le chapitre précédent. Ça c'est quelque chose d'important, et cette diversité religieuse, eh bien on va la retrouver dans un personnage qui s'appelle Zacharie le scolastique, sur lequel je vais m'attarder un peu, qui est originaire de Gaza, ou plus exactement de Mayouma, qui était le port de Gaza. Hein, Gaza a toujours été à quelques kilomètres dans les terres, comme de très nombreuses villes. Athènes avait son port, Rome avait son port, et Gaza avait également son port, hein, le port de Mayouma. Et ce parcours de Zacharie le scolastique, en fait, au 5e siècle, donc à l'époque byzantine, nous raconte le déclin du paganisme. Ah, on y cultivait notamment à Gaza le culte de Marnas, qui était le grand dieu de la ville, mais aussi celui d'Apollon, hein, qu'on va retrouver très très tardivement, et qui a fait l'objet d'une découverte, je crois, en 2013, assez insolite, d'un grand bronze de l'époque hellénistique, un grand bronze découvert par un pêcheur dans la mer. Mayouma, elle, au contraire, va s'orienter très vite, va adopter très vite le christianisme. Hein, donc on a deux villes à 3 km qui sont dépendantes l'une de l'autre. Et puis tandis que l'une cultive les divinités ancestrales qu'on va retrouver sur tout le bassin méditerranéen, et en particulier de la Méditerranée orientale, le port de Mayouma, va très vite adopter les formes, je dirais même, du christianisme, puisque les choses se font lentement. Et ce parcours de Zacharie nous plonge dans cette civilisation du 5e siècle, avec notamment le parcours de Zacharie qui d'une famille de notables, va faire ses études d'abord à Gaza, où se trouve la grande école que l'on appelle, que les historiens appellent l'école de Gaza, donc des écoles de rhétorique, donc qui a été très célèbre et que l'on connaît par un certain nombre de textes d'auteurs célèbres comme Procope. Et puis ce personnage va étudier à la grande université d'Alexandrie avant de rejoindre Beyrouth, l'actuelle Beyrouth, où se trouvait la plus grande université ou l'une des plus grandes universités de droit de l'époque. Et puis il poursuit son périple au centre de l'Empire, donc à Constantinople, avant de devenir évêque à Mytilène, et puis ensuite on perd sa trace. Donc le parcours que nous invite à découvrir Frédéric Alpi est vraiment un parcours ouvert sur la Méditerranée orientale, et ce qui nous permet vraiment de sortir de ces clichés sur l'histoire qui est souvent faite d'essentialisme, où on a l'impression que les choses sont enfermées soit dans un rituel religieux, soit dans une géographie, alors qu'on est sur un monde ouvert, qui communique, qui peut cultiver ses particularismes, mais qui est avant tout ouvert sur sa région.
Alors, pour la troisième période, le cœur arabe du Proche-Orient, enfin pour le chapitre 3 plutôt que la troisième période, car ce sont des périodes de très longues sur le temps, là on se retrouve aussi avec 2, 4, 5, 6 personnalités, toutes des hommes, dont un est écrit, Kassim Al-Ahmad est écrit par une de nos historiennes marseillaises, Norik Neveu. Et pour toi, quel serait le personnage remarquable donc du cœur arabe du Proche-Orient, ce chapitre 3 de l'ouvrage ?
Bon, on en a plusieurs, mais effectivement, on en a plusieurs, hein, avec Salah ad-Din Safadi, par exemple, hein, qui est fils de Mamelouk, mais qui va devenir un lettré. Donc on imagine que son père ne parle pas très bien l'arabe ou avec un très fort accent. Puisqu'il est originaire de l'Asie centrale, mais son fils va se fondre dans la société palestinienne arabe de l'époque jusqu'à rejoindre les lettrés de son temps. Ce personnage a été une surprise. Il est porté par, il a été écrit par Mathieu Echen, qui est spécialiste de la période. Et ce qui est intéressant, et le clin d'œil, c'est d'avoir découvert que ce personnage a rédigé en fait une grande somme de biographies des hommes de l'histoire et de son temps. Et s'était intéressé notamment aux hommes de sa ville, de Safad, en Galilée. Donc à travers en fait un personnage, on peut voir s'éclairer, en fait, c'est comme une parcelle d'histoire, hein, où s'éclaire l'histoire de la région, mais aussi l'histoire locale. Hein, et à travers cette œuvre, on a à la fois l'histoire locale et l'histoire régionale, hein, de la Palestine et de la Syrie, de ce qu'on appelle le Bilad Sham, hein, le pays de Sham.
Tout à fait. Alors, on arrive au chapitre 4 et pratiquement à la fin de notre entretien. La Palestine dans la tourmente. Alors là, par contre, une longue liste d'intervenants et beaucoup de personnes dont on relate l'histoire avec des intellectuels, comme Edouard Saïd, Hassan Kanafani, l'écrivain et poète assassiné, Naji Alali, le caricaturiste. Mahmoud Darwish, le poète, mais aussi une prisonnière célèbre, Aïcha Odé, des hommes politiques, Fatih Shikaki, ou bien évidemment Yasser Arafat, de nombreuses personnalités. Lequel ou laquelle nous présentes-tu ?
Voilà, alors c'est toujours très difficile. D'abord sur ce chapitre que j'ai intitulé La Palestine dans la tourmente, hein, c'est un peu un euphémisme. On aurait pu l'appeler aussi... ce qui est le titre d'un ouvrage récent de l'historien Rachid Khalidi, La guerre de 100 ans. Ah, j'aime beaucoup ce titre. Donc, j'aime bien évoquer, en fait, cette période-là sur son intégralité, hein, donc avec cette période de tournant, hein, qui est la période de colonisation britannique, avec l'instauration d'un mandat britannique et donc la confiscation des droits civiques, politiques des Palestiniens. À partir de 1917, et puis un projet nouveau qui s'installe, qui est établi par les Britanniques en Palestine. Il y a effectivement beaucoup de personnages, beaucoup de personnages intéressants. J'aime bien souligner ce personnage, Nuh Ibrahim, le poète de la rébellion. Donc c'est un texte qui avait été rédigé par Samir Shabib, qui était professeur de sociologie à Birzeit, et puis aussi journaliste qui a longtemps vécu en exil au Liban, à Beyrouth. C'est un personnage très intéressant, c'est un poète, mais un poète populaire dont les poèmes étaient récités à chaque occasion. C'est un poète politique, hein, qui décrivait cette période dans les années 30, hein, et qui va lui-même s'engager dans la lutte armée et est tombé en 1938. De lui, on ne connaît finalement qu'un ouvrage, qui a été interdit, évidemment censuré en son temps par les Britanniques. Mais on connaît également beaucoup de poèmes qui nous racontent cette période de 1936-1939, hein, la grande révolte palestinienne, qui est contre la grande révolte palestinienne, contre le colonialisme britannique, mais également contre la colonisation sioniste. C'est une période cruciale, et en fait, à travers le livre, il s'agissait aussi de croiser l'événement à travers ses parcours, hein, le parcours de chacun des personnages, et d'y avoir en fait des entrées vraiment multiples, c'est-à-dire ne pas se cantonner à des figures nationales ou militantes, même si elles sont très nombreuses, mais d'avoir ces entrées aussi bien à travers les initiateurs du cinéma comme Mustapha Abou Ali, Khadija Abachné, à travers le travail de poètes comme Taha Mohamed Ali, ou celui de prisonnière, c'est le cas de Aïcha Odé que tu as mentionné. Donc c'est à travers toutes ces entrées, qu'ils soient paysans, qu'ils soient de personnages qui aient une implication dans le mouvement de libération nationale ou dans d'autres activités plus locales, d'avoir par touche un regard sur différents moments de l'histoire palestinienne et là de cette histoire, de cette période de 200 ans qui couvre la période.
Écoute, je ne peux que te remercier encore pour ce magnifique ouvrage et pour le temps que tu as passé à nous en parler. Je voudrais juste terminer par ces quelques vers du poète Nuh Ibrahim. Ils étaient trois qui rivalisèrent pour mourir et qui défièrent le bourreau. Ils sont devenus un exemple, mon vieux, dans tout le pays. Mon Dieu, ô mon Dieu, les ténèbres de la prison nous sont chères, ô mère, si c'est pour toi que nous y sommes. Les jours de tristesse, terre, c'est là qu'on voit les vrais hommes. Un mardi, ils étaient trois, ô terre, à t'attendre, à rivaliser entre eux pour te donner leur souffle. Mon Dieu, ô mon Dieu. Merci beaucoup. Encore, nous te souhaitons une très bonne fin d'année, malgré le drame que vit aujourd'hui le peuple palestinien. Nous continuons à soutenir tout ce qui va dans le sens de la justice et de la dignité. Merci encore à toi, Sabri, et à bientôt pour sans doute sur les antennes de Radio Galère. Et merci pour cet magnifique ouvrage, La Palestine en 50 portraits. Et tout de suite, une pause musicale avec un morceau chanté par l'orchestre d'Edouard Saïd. Cette chanson est plus d'actualité que jamais. C'est le salut, la paix pour Gaza. Salut Gaza, toi qui cultives depuis la plaine de Gaza, toi qui subis les martyrs que tous les jours il faut enterrer. Une magnifique chanson qu'on aura l'occasion de repasser peut-être si nous avons du temps en fin d'émission. Vous êtes bien sur Radio Galère pour une heure en Palestine et c'est la dernière émission de l'année, préenregistrée. Aujourd'hui, nous allons rapidement évoquer cette saisine de la Cour pénale internationale de son procureur Karim Khan par l'association Dawn, Démocratie pour le monde arabe maintenant. Dawn a soumis au procureur de la Cour pénale la liste de 40 commandants militaires israéliens qui ont pris part ou qui ont la responsabilité directe de commandement dans des opérations qui comprennent probablement des attaques aveugles et délibérées contre des civils, l'utilisation de la famille comme arme, la famine comme arme, le blocage des opérations humanitaires, l'aide humanitaire et l'imposition du siège à Gaza. A soumis ces informations en réponse à l'appel du procureur du 17 novembre au parti à présenter à son bureau les informations pertinentes pour l'enquête en cours de son équipe d'enquête sur les violations du statut de Rome en Palestine, y compris la guerre actuelle à Gaza. A été compilée la liste, l'organigramme des acteurs militaires israéliens actifs à Gaza, exclusivement à partir de publications militaires israéliennes officielles confirmant la présence d'unités militaires spécifiques qui se trouvaient soit dans la bande de Gaza entre le 8 octobre 2023 et le 13 novembre, afin qu'elles soient impliquées dans l'imposition du siège, le bombardement et le bombardement de la bande de Gaza au cours de cette période. Chaque entrée comprend le nom, le grade, la photo et le rôle de commandant de chacun de ces unités. Ils ont étaient, ces 40 commandants, responsables de la planification de l'ordre et de l'exécution des bombardements aveugles, des destructions gratuites et des massacres de civils à Gaza par Israël. Et ils devraient être les principaux suspects dans toute enquête de la Cour pénale internationale, a déclaré Sarah Lee Winson, directrice exécutive de Dawn. Bien qu'Israël ait fait de son mieux pour dissimuler l'identité d'un grand nombre de ses officiers, il devrait être averti qu'ils encourent une responsabilité pénale individuelle pour les crimes en cours à Gaza. Alors, en tête de liste, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, le 9 octobre 2023, il a ordonné un siège complet de la ville de Gaza, coupé l'approvisionnement en eau potable à l'ensemble de la population de la bande de Gaza, plus de 2 millions de personnes, dont à peu près 1 million d'enfants de moins de 18 ans. Il a bloqué l'entrée de l'aide humanitaire et supervisé le bombardement aveugle de Gaza. « Nous combattons les animaux humains », a-t-il dit, « et nous agirons en conséquence ». Un jour plus tard, il a déclaré aux troupes israéliennes à la frontière de Gaza « J'ai levé toutes les contraintes et ils regretteront ce moment. Gaza ne reviendra jamais ce qu'elle était ». Sont également inclus le chef du COGAT. Le COGAT, c'est la coordination militaire israélienne des activités gouvernementales dans les territoires. C'est un général de division, il s'appelle Rassan Alian. Il est responsable de l'administration du siège de Gaza. Il a été responsable de la coupure de l'approvisionnement en eau, en nourriture et en carburant au début de la guerre. Le 10 octobre 2023, il a déclaré dans un message vidéo en arabe adressé à la population civile de Gaza qu'Israël imposerait un blocus total. Pas d'électricité, pas d'eau, juste des dégâts, ajoutant un avertissement effrayant « Vous vouliez l'enfer, tu auras l'enfer ». Priver intentionnellement des civils, des nécessités de base, notamment en bloquant ou même en empêchant la fourniture de secours humanitaires, constitue un crime de guerre au sens du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le fait de prendre intentionnellement pour cible des installations médicales, des ambulances, des lieux de culte, des lieux de culture, et plus grave encore, le bombardement aveugle de zones civiles sont des crimes visés par le statut de Rome. Et puis, il y a également des officiers, comme le lieutenant-colonel des forces de défense israéliennes, Dvir Edri, commandant de la 460e brigade blindée, dont Dawn a confirmé qu'il avait participé à des opérations de combat dans le nord de Gaza, entre midi le 4 novembre et midi le 5 novembre, selon les données publiées par l'ONU, 243 Palestiniens ont été tués à Gaza. Voilà, c'est un petit peu le contenu de ce qui est dans la plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale. Si le procureur a déjà indiqué qu'il enquêtait sur les responsables du Hamas, il est grand temps qu'ils se mettent à enquêter sérieusement sur les dirigeants israéliens et sur les généraux et commandants israéliens qui, rappelons-le, ont permis de tirer, alors au moment où la plainte a été déposée, plus de 140 000 munitions sur Gaza, 60% d'entre elles étant des obus d'artillerie et 40% d'armes larguées depuis des avions. Et vous avez vu les ravages, enfin en tout cas si vous regardez les télévisions étrangères et en particulier Al Jazeera, vous avez pu constater que la bande de Gaza est à 80%, en tout cas dans les zones urbaines, détruites. La plupart des habitations, la quasi-totalité des habitations, sont soit totalement détruites, soit tellement abîmées qu'elles devront être sans doute reconstruites. Et avant de terminer, eh bien, on va parler peut-être de ces témoignages qui commencent à émerger très sérieusement et qui révèlent que l'armée israélienne bombarde les citoyens israéliens, a bombardé le 7 octobre les citoyens israéliens dans les différents kibbutz avec des chars et des missiles. Je vois que le temps nous manque quand même. Je ne vais pas développer, nous y reviendrons en janvier. Mais les dernières images qui ont été montrées sur les télévisions datent d'il y a quelques jours et c'est le Channel 13 de la télévision israélienne qui a montré un char Merkava qui tirait sur les kibbutz le 7 octobre, donc après les hélicoptères Apache. Voilà maintenant la confirmation que des chars ont bien tiré, comme un certain nombre de rescapés des massacres du 7 octobre en avaient déjà témoigné, mais nos médias sont bien frileux à nous montrer ce qui a pu se passer et a insisté pour que la vérité, une enquête indépendante, soit faite pour savoir effectivement ce qui s'est passé le 7 octobre. Il y avait aussi un autre article dont je voulais vous parler, c'était sur ce cri d'alerte, cette horreur que vivent les, que vit la protection civile menée par les Palestiniens, c'est-à-dire ces personnes qui fouillent les décombres en permanence et qui n'arrivent pas à sortir les survivants des bombardements. On reviendra là-dessus en janvier, mais je veux avant vous lire ce message de l'archevêque grec orthodoxe de Jérusalem et de Sébastien, Monseigneur Atala Anna, au nom des églises chrétiennes de Palestine, qui a réaffirmé le refus des églises de Jérusalem et de la Palestine, de la guerre et leur volonté résolue d'exiger l'arrêt immédiat de l'agression à laquelle se trouvent confrontés le peuple et le peuple palestinien et le peuple à Gaza, ceux-là d'entre les nôtres dont on détruit les maisons sur leur propre tête, ceux-là qui sont trouvent pris sous des bombardements sauvages, ceux-là que l'on tue de sang-froid. Il lance un appel. Alors, vous l'entendrez, vous, le 27, donc après Noël, mais voilà ce qu'il est dit dans cet appel. Par cet appel et cette décision, les églises chrétiennes de notre pays entendraient affirmer leur refus de la guerre et leur volonté d'exiger l'arrêt immédiat de l'agression à laquelle se trouve confronté notre peuple à Gaza. Ces scènes terrifiantes, ces scènes tragiques qui se déroulent sous nos yeux à Gaza sont le témoin flagrant de la barbarie et de la laideur de cette agression. Cette terre, celle de Bethléem et de la grotte de la Nativité, vit une effroyable tragédie. À Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem, les civils sont visés délibérément, sans compter les agissements obscurs et les manipulations de l'occupant, dont la ville sainte est l'objet. Nous rappelons aux chrétiens du monde qui célèbrent Noël, alors même que ces célébrations se déroulent, la terre de la Nativité est elle-même privée de célébrations. En effet, seules les messes auront lieu en Palestine. Toutes festivités, en dehors de ces offices religieux, sont supprimées en solidarité. Alors, il s'explique sur ce, est-ce que c'est en solidarité ? Il dit, nous, chrétiens palestiniens, n'exprimons pas de la solidarité avec Gaza. C'est notre propre sang qui coule à Gaza. Ce sont là-bas nos propres souffrances. C'est là notre propre peuple, nos propres familles. Toutes ces souffrances, nous les vivons en premier lieu à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, à Bethléem, régulièrement investie et prise d'assaut, à Naplouse, à Jenin, dans le camp de réfugiés de Jenin, devant les martyrs du camp de Jenin. Dans cette tragédie palestinienne, ce sont tous les Palestiniens qui sont visés, toute la Palestine qui est prise pour cible, à Gaza d'abord, où se produisent les massacres les plus barbares, l'épuration ethnique, le génocide, les tentatives de provoquer et de renouveler une nouvelle Nakba, mais également en Cisjordanie. Nous souhaitons que l'appel des églises de Jérusalem et que la voix des chrétiens de Palestine parviennent aux quatre coins du monde. Eh bien, nous avons entendu cet appel de Mgr Atala, nous avons entendu l'appel des chrétiens de Palestine, de ceux de Gaza dont les églises ont été bombardées, l'église Saint-Porphyrius et l'église de la Sainte Famille. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés devant, samedi dernier, devant la cathédrale de la Major pour porter la voix de ces Palestiniens, pour dire à tous les chrétiens qui se rendaient aux Vêpres ou tous ceux qui passaient par là, eh bien pour leur dire de ne pas oublier la Palestine, de penser, de garder une pensée pour les Palestiniens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, nous sommes retrouvés de toute origine, de toute religion, devant la Major pour dire que la guerre, ça suffit, que la colonisation, ça suffit, que l'apartheid, ça suffit pour une Palestine libre, démocratique, sans colonialisme, sans apartheid, sans sionisme, où quelle que soit l'origine des gens, quelle que soit leur religion, chacun pourrait vivre en paix, en égalité, pour que, enfin, il y ait un petit peu plus de paix sur notre terre. Voilà le message que nous voulons adresser au début de, ou à la fin de cette année 2023. Et on vous dit à toutes et tous, eh bien, à l'an qui vient, on se retrouve sur Radio Galère pour une heure en Palestine au début de 2024. On ne lâche rien. Palestine vivra, Palestine vaincra. Et à bientôt sur Radio Galère. Bonne fin d'année, prenez soin de vous.
Tishalabim.